Salut, c'est Elodie, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast C'est loin mais c'est beau. Je suis avec Benoît. Salut Benoît.
Salut Elodie.
Ça va?
Ça va et toi?
Ça va, merci.
C'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Je disais c'est loin mais c'est beau.
Tout d'abord, on voulait vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode du podcast. C'était chouette d'avoir vos retours et ça nous motive bien à continuer. Aujourd'hui, on va faire un point sur nos 3 semaines au Costa Rica. Tout d'abord, Benoît, est-ce que t'as aimé le Costa Rica ?
Ouais, j'ai adoré le Costa Rica. C'était vraiment super bien. C'est mal parti avec Sandro Zé qui est pas vraiment une bonne première étape.
Ça a pas super bien commencé.
Pour le Costa Rica, mais en fait, les 3 semaines étaient vraiment mortelles. On a eu énormément de chance sur le temps, au niveau du temps, et c'était, moi j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce pays.
Je pense que j'ai le même avis que toi. C'est un pays qui est quand même très contrasté, parce qu'effectivement, les villes sont pas belles, on peut pas dire que c'est beau.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais par contre, dès qu'on s'éloigne un peu, à 2-3 heures de bus, on se retrouve dans une zone protégée avec un parc national à côté d'un petit village. Et vraiment, c'est un pays qui mérite d'être découvert.
Surtout que c'est assez... Enfin, moi, j'ai trouvé assez facile, au final, à se déplacer.
Oui, c'est vrai.
Leur réseau de bus, je l'ai trouvé très efficace, pas cher. Et alors les bus sont pas ultra confortables, mais c'est pas non plus des tape-cul, ouais, ça passe carrément. Et je m'attendais à vraiment pire, et au final ça s'est super bien fait. À chaque fois les bus étaient à l'heure ou à quelques minutes près, quoi. On n'a jamais attendu longtemps. Et à chaque fois ils ont,
contrairement à ce qu'on avait entendu ou pu lire, qui disait que les routes étaient un peu pourries, que tu pouvais attendre ton bus pendant des heures. En fait, on n'a pas du tout eu cette expérience-là, quoi.
Non, alors les routes n'étaient pas folles non plus. Oui, il y a des endroits où il n'y en avait pas, il n'y a pas de route. Mais...
Bah, un chemin de caillou, c'est une route,
mais,
non
Oui. Mais non, moi j'ai vraiment été agréablement surpris par la facilité des déplacements. Enfin, à chaque fois, c'était des bus locaux, vous comprenez, quoi. C'était pas des navettes privées. Des bus, même parfois, qu'on devait héler sur le bord du chemin pour qu'ils s'arrêtent, parce qu'il n'y avait pas d'arrêt là où on était. Ouais. Mais non, j'ai très, très, vraiment aimé ce pays.
Et du coup, est-ce que tu devrais t'installer là-bas? Et pourquoi faire?
Alors, c'est un peu dur de répondre à ça, parce que la vie est très différente. Que ça soit, enfin, c'est tout en termes du climat, du rythme de vie, du niveau de confort, c'est vraiment très différent. C'est pas évident de répondre à ça.
T'as peur de te faire chier?
Pas forcément, mais je sais pas, la crainte que j'aurais, c'est de pas m'adapter vraiment à la vie à longue durée. Après, alors. Pour faire quoi? Je pense que en mode nomade digital, genre bosser sur le web depuis là-bas, c'est pas forcément super simple parce que le Wi-Fi et l'internet est pas de très bonne qualité. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où le Wi-Fi sautait toutes les 5 minutes, où t'avais un débit de merde.
Il y a même un hôtel où on a eu l'électricité coupée pendant je sais plus 2 heures.
Ça arrive. Ou alors, enfin, ouais, faut vraiment choisir son endroit et peut-être tester les Wi-Fi à droite à gauche avant de se poser. Mais ouais, nomade digital, c'est peut-être un peu compliqué ici. Après, bosser dans le tourisme, pourquoi pas? Ça a pas l'air hyper simple au niveau des démarches et tout. Là, on a un petit peu discuté avec un Breton qui gère des auberges sur la côte caribéenne, enfin qui gère une auberge. Quoi. Ça a pas l'air super simple au niveau administratif, voilà. Ouais. Mais après, le cadre de vie, il est mortel, quoi. Enfin,
Moi j'adorerais m'installer là-bas. J'adorerais. Je me verrais bien m'installer là-bas et ouvrir, je sais pas, une petite échoppe. Genre vendre des gâteaux vegan, tu fermes et tu vas te baigner. Mais ma seule crainte, un frein plutôt, ça serait que le tourisme, c'est une source importante de revenus pour eux, et je me vois pas en tant que Française avec des possibilités en France assez large d'aller voler leur travail. Ouais, je me sentirais un peu coupable, je pense, de faire ça, de vivre du tourisme au Costa Rica pour ça.
Je pense aussi qu'un Français qui ouvre quelque chose, qui ouvre une société de tourisme, quelle qu'elle soit, que ce soit des auberges ou un resto ou un truc de bouffe végane, je pense que ça amène aussi d'autres touristes. Je me dis que voir des restaurants français ou des auberges où ça parle français, ça peut attirer des gens qui sont pas bilingues du tout ou qui sont pas du tout à l'aise.
Je suis pas sûre parce que nous on n'a pas choisi notre logement pour être avec des Français, même si on est tombé sur un hôtel.
Ouais, mais nous, enfin, on parle bien anglais et je connais 3-4 mots d'espagnol, donc on cherche pas forcément. Un logement où ça parle français, c'est pas très grave.
Les gens qui parlent pas anglais, ils vont en vacances en Bretagne, quoi.
Bah non, je suis pas d'accord. Il y a plein de gens qui parlent pas anglais et qui veulent voyager aussi à l'étranger. C'est quoi ce French shaming que tu fais là? C'est une honte.
Enfin, pour moi, c'est pas un critère. Je pense pas que ce soit un critère de rechercher des Français à l'étranger.
Bah pour toi, non, mais je pense que pour certains, oui.
Ok.
Voilà.
On fera un sondage. Passons à nos coups de cœur au Costa Rica. On va commencer avec la bouffe. Qu'est-ce que tu as préféré manger ?
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé leur spécialité. Bon, c'est du riz et des haricots. Hein. De toute façon, toutes leurs spécialités sont à base de riz et de haricots. Mais la spécialité du petit déjeuner...
Des fois, il y a du poulet.
Oui, mais il y a aussi du riz et des haricots, en plus du poulet. C'est le gallo pinto. C'est le petit-déj classique costaricien. C'est très bon. Donc, c'est effectivement du riz et des haricots cuits ensemble et avec des petites épices, des petits trucs. C'est vraiment bon. C'est fait des bons petits-déj qui te tiennent bien la journée pour partir crapahuter dans les parcs nationaux ou faire le guignol sur les plages. Moi, j'ai vraiment bien aimé, ouais. Et t'as des petites variantes avec une omelette à côté, ou un peu de viande, ou un peu de machin, ce que tu...
Ouais, c'était très bon, et une des seules options véganes dans tous les restaurants qu'on a fait avec les fruits, évidemment, mais ouais, c'était sympa de voir ça. Du coup, en parlant de fruits, moi, c'est mon coup de cœur bouffe, c'est vraiment la qualité des fruits là-bas, et le prix.
Et le prix, ouais.
Les bananes, les mangues, les ananas, mais le goût que ça a rien à voir avec ce qu'on trouve en France, c'était tellement bon.
Allez, les ananas, c'était quoi, 1,50€
Ouais, 1,50€, l'ananas énorme qui te fait 3 jours.
Et super bon.
Ouais, oh, tellement bon. Bref.
Les fruits.
Les fruits, c'était trop bon. Passons ensuite au coup de cœur logement. Qu'est-ce que t'as préféré ? Où t'as préféré rester ?
Le coup de cœur logement, je pense que ça va être l'auberge à Tortuguero.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Surtout, enfin, après, c'est vrai que le lieu aide beaucoup. Mmh. Parce que ce petit village un peu isolé...
Ah, complètement, on peut y aller qu'en bateau.
Ça aide à mettre une ambiance vraiment très particulière. Et l'auberge dans laquelle on était, les parties communes étaient vraiment très sympas. C'était très vert, enfin de toute façon c'est des arbres partout dans ce village-là, et il y avait des hamacs, des canapés, une sorte de grande
un préau,
une cour, un truc ouvert à côté de la cuisine là, où il y avait quelques petites tables pour manger, des canapés, même des lits pour se poser. C'était vraiment agréable de se poser là l'après-midi après une rando le matin.
C'était la pura vida.
Exactement, c'était ça.
C'est un peu, pour resituer un peu, c'est leur
c'est le slogan national.
C'est le slogan du Costa Rica, c'est la pura vida. Pour moi, c'est un peu ne rien faire et ouais, tu profites de la vie et pura vida.
C'est ça. Et c'est aussi ce qu'ils peuvent répondre quand tu leur dis merci ou ils peuvent te répondre pura vida.
Sauf que si tu leur dis merde aussi, ils disent pura vida.
C'est ça.
Donc ouais, moi je suis assez d'accord avec ce coup de cœur logement, donc je te suis là-dessus. Ton coup de cœur expérience ?
Mon coup de cœur expérience, je pense que c'est quelque chose qu'on a retrouvé partout dans le pays, enfin partout où on est allé tout du moins, on n'a pas fait tout le pays évidemment, c'est la proximité avec les animaux sauvages, la facilité avec laquelle on peut en voir... Ils sont pas très farouches, enfin, même s'il y en a évidemment qui nous évitent ou quand... quand on les croise, qui se barrent un peu, mais bon, faut dire que la plupart aussi, ils vivent à 5 mètres du sol, dans les arbres, donc...
Il y a un singe capucin qui t'a montré les dents, quand même, t'as
fait te faire frapper. c'est vrai, il y a un capucin qui m'a grogné dessus. Ouais, il s'arrête pour regarder, bon, il s'approche pas trop, mais... J'ai trouvé ça, ouais, très dépaysant, très sympa, mais ouais, plein d'animaux différents, quoi. Ça change des pigeons. On a vu des singes, des paresseux, plein d'oiseaux différents, des crocodiles, des toucans, des ratons laveurs.
C'était quoi les animaux qu'on a vus, là, Monteverde, qui fouillaient le sol avec leur nez comme des petits cochons?
Mais... Ah, des coatis.
Ouais, c'était trop bien.
Des coatis, ouais, plein de coatis. Non, c'était vraiment sympa. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que on les voit pas que dans les parcs nationaux, en fait, les animaux. Ça peut être vraiment n'importe où. On a vu, bah, par exemple, le paresseux, on l'a vu en pleine auberge, dans les parties communes de l'auberge à Puerto Viejo. Mm. Il était dans un arbre à 2 mètres au-dessus des douches à côté de la piscine. Bah, tu vois qu'en fait, c'est chez eux, quoi. Même les villages, ils sont là où vivent les animaux. Maintenant, avec tout ce que met en place le Costa Rica, bah, c'est des milieux ou des ambiances bien moins agressives pour les animaux. Donc voilà, ils sont chez eux un peu partout, et du coup, on en voit plein.
Mmh. Ouais, moi, mon coup de cœur, c'est vraiment ces parcs nationaux. Donc, c'est des zones protégées, dont une toute petite partie est ouverte au public, généralement moyennant soit un prix fixe, soit donation.
Soit un don, ouais, je trouvais ça pas mal, moi. On a fait deux parcs comme ça, je crois, où c'était par donation. Et ouais, je trouvais ça sympa. Ouais.
Mais la plupart du temps, c'est plutôt 15$. Et ouais, d'avoir la possibilité de financer ce type de sauvegarde, je trouve ça trop bien, tout en pouvant se balader et profiter de la jungle, des animaux, de ce pays qui est quand même vachement protégé. Bon, le Costa Rica, il y a quand même... Je crois que c'était il y a 200 ans, c'était rempli de forêts, en fait, à 90%. Et justement, quand ils ont commencé à s'installer et à tout déforester, il y a le gouvernement qui a mis un petit stop et qui a dit « Bon, on va peut-être protéger ça un peu. » Et c'est génial d'avoir ça.
Mais c'est vrai que c'est ce que j'avais lu à Monteverde, justement, les différentes cloud forests qu'il y a. Il y a, je sais plus combien, quelques dizaines d'années, pas si vieux que ça, au final. C'était des champs, au moins une partie des forêts qu'on a vues, c'était de l'agriculture. Donc, ils avaient tout pété, ils cultivaient des fruits, des je sais pas quoi. Et quand ils ont commencé à ouvrir un peu ces parcs nationaux, bah, ils ont fait en sorte que la forêt reprenne sa place.
Ouais, le tourisme fait en sorte d'injecter de l'argent là-dedans et de protéger.
C'est bien fait. Ouais.
Passons à la question suivante. Y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment au Costa Rica?
Oui, il y a quelque chose que je ferais différemment.
Attention, coup de gueule.
Coup de gueule, non.
C'est, coup de gueule contre nous.
C'est de ne pas filer 5000 colonnes à un...
Bah, raconte l'anecdote depuis le début.
Ouais, l'anecdote, en fait, c'est... C'était à
Punta
Arenas, ouais, c'est ça. C'est entre deux bus, c'est une ville qui est sur la côte pacifique. Mmh. On a un bus, donc c'était pour entre deux destinations. On avait deux bus qui se suivaient, avec un changement donc à Punta Arenas. Sauf que les deux bus n'étaient pas, enfin, c'était pas dans la même gare. Il fallait changer de gare pour récupérer le deuxième bus. Et donc quand on est sorti du premier bus, il y a un mec qui nous a un peu sauté dessus, sur tous les touristes qui descendaient du bus, quoi, et qui demandait où on allait, ou machin. J'étais pas vraiment sur mes gardes, parce que jusqu'à présent, tous les gens qui nous proposaient comme ça de l'aide, c'était vraiment juste pour de l'aide, ils ont absolument rien demandé en retour. Donc là, je m'attendais pas du tout. Et donc le mec nous a
invité... Surtout qu'il dit qu'il travaille pour la gare.
Ouais, c'est ça, ouais, il t'embobine pas mal et tout, et donc il nous emmène jusqu'à l'autre endroit pour prendre le deuxième bus, et là, il commence à nous dire, ça serait bien un petit pourboire, machin, tu peux donner tant, si t'as un billet de 5000 ou machin, il était un peu insistant, il avait un peu le pif dans mon portefeuille et tout.
Ouais, il t'a carrément montré le billet, il fait, ah, il faut 5000.
Ouais, et moi, en plus, j'ai eu du mal à me faire à cette monnaie et au taux de change. Et du coup, j'avais pas en tête la conversion. Je réalisais pas ce que ça faisait 5000 colones. Donc, pour qu'il arrête de me faire chier, je lui ai filé. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était à peu près.
C'est 8 euros.
C'est 8 euros, ouais, c'est ça. Alors, c'est pas énorme. Hein,
Plus que le prix du bus qu'on prenait après.
C'est ça, ouais. C'est pas énorme, mais ça fait chier parce qu'il nous a juste fait une petite belette de 200 mètres entre les deux stations de bus, quoi. Mm. Et surtout qu'après, il a commencé à nous dire, ouais, pour le bus. Alors, au début, il nous disait, le billet du bus, vous le payez au chauffeur. Et une fois qu'on était arrivé à côté du bus, il nous a dit, ah, vous pouvez me le payer à moi, c'est 3000 chacun, machin. Et là, je lui ai dit, bah, je sais pas, tu m'as dit de payer au chauffeur et tout. Et au final, c'était 2000 et quelques chacun. Je crois que j'ai payé 4000 en tout pour nous deux, pour le billet de bus.
Donc, il se prenait sa petite marge.
Donc, ouais, c'est ça. Il s'est bien fait souffler dans les bronches par le chauffeur du bus, d'ailleurs, quand il a vu.
Ouais,
que,
et par les gens qui étaient à côté, qui vendaient des trucs.
Ouais. Donc, en fait, ouais, j'ai vu que c'était un beau petit arnaqueur. Voilà, qui m'avait.
Je sais pas si on peut parler d'arnaque, parce que.
Bah, enfin, si, bien sûr, c'est une arnaque.
Avec la gare, bah oui. Ça, c'est une arnaque.
Bah, c'est clair.
Après, ils te volent pas, ils te forcent pas, mais. Enfin, ils te forcent la main.
Mais voilà, bon, après, c'est 8 euros, hein, c'est pas grand chose.
Mais on aurait pu, bah, il y avait un Canadien à côté de nous.
Ouais.
Qui lui a filé que 2 dollars, et je pense que c'est.
Ouais.
On aurait dû faire ça, quoi. Bah, lui filer moins, lui dire, ouais, ça va, hein.
Enfin, ouais, juste. Lui dire pour Avida.
Je pense que c'est un truc de français aussi de pas dire non et de on te dit un tarif, tu négocies pas en fait, tu donnes ce qu'on te dit et ça va être un truc à bosser pendant notre voyage, de la négociation.
Ouais, surtout en Asie, ouais.
De dire non.
Mais en Asie, je pense que ça va venir assez vite. Enfin, moi quand j'étais allé en Thaïlande, c'était venu assez vite.
Moi, je vais rajouter un autre truc dans quelque chose que je ferai différemment. À Tortuguero, on a fait une excursion qui consistait à aller voir la nidification des tortues. Donc, quand elles sortent de l'eau, elles vont sur la plage, elles creusent un trou et elles pondent leurs œufs et se rebarrent dans la mer. Et donc, c'est un truc qui est très populaire à Tortuguero, qui est une des bases du tourisme là-bas, qui coûte quand même 30 dollars.
Ouais, 25 ou 30 dollars, ça dépendait des compagnies. Ouais.
Et donc, le principe, c'est qu'on est en groupe de 8, il y a un petit guide qui nous emmène sur la plage et qui nous montre
la
nuit. Qui nous montre donc les tortues qui font leur nid. Et donc, c'est assez impressionnant la première fois qu'il pointe. En gros, il nous met en petit. Il nous dit oui, mettez-vous
autour de cet endroit. Groupe,
voilà.
Les petits et devant, les grands derrière.
C'est ça. D'un coup, il allume sa lumière, donc rouge pour pas déranger la tortue. Et on voit une tortue de 1 mètre sur 1 mètre qui est en train de reboucher son nid, il me semble, à ce moment-là.
Ouais, elle était en train de camoufler, ouais.
Et ce moment-là, il est impressionnant parce qu'on n'a jamais vu une tortue de notre vie de cette taille-là. Enfin, moi, j'ai vu les petites tortues dans le bassin de mon oncle et de ma tante quand j'étais gamine, mais ça n'a rien à voir.
C'est pas pareil, ouais.
Et ce moment-là, il est vraiment dingue. Et donc après, il nous montre d'autres étapes de la nidification. Donc des tortues qui sont arrivées, qui ont vu qu'il y avait du monde sur la plage, qui repartent à la mer, donc... Et donc à la fin, il nous montre une tortue qui est en train de pondre. Et moi, ça m'a mis très mal à l'aise. Si je sais expliquer pourquoi, c'est parce que j'ai l'impression que j'aurais pas dû être là, en fait. Que c'était pas un moment que j'aurais dû regarder. C'était gênant, c'était dégueulasse, ça coulait de partout. On aurait dit... on aurait dit qu'elle lâchait des balles de ping-pong avec de... Ah, c'était... Non, je sais pas, je me sentis...
J'ai vu pire comme truc dégueulasse, quand même. Ça, c'était pas...
Non, bien sûr, mais je suis... Ouais, j'ai vraiment senti que c'est pas un truc que j'aurais dû voir, quoi. Bah je me suis demandé si c'était vegan de faire ce genre d'excursion. Quand même, je me pose des questions.
Ah ouais, bah ouais.
Alors, je pense que oui.
Alors, on n'a pas fait d'omelette avec les œufs après, hein, pour précision.
Je pense que oui, parce que, d'une certaine façon, c'est comme quand tu payes pour entrer dans un parc national, tu te retrouves face à des animaux dans leur milieu naturel, donc ça passe. Après... Il n'y a pas d'exploitation vraiment de l'animal. Après, tu le déranges d'une certaine façon, mais il y a plein de tortues qui... Il n'y a qu'une section de la plage qui est bloquée, et une tortue qui part, elle va répondre ailleurs. Donc, Et au contraire, ça favorise le fait de la protection des tortues, parce que avant, il y avait beaucoup de braconnage, et on ne laissait pas les tortues pondre, on les prenait, on les tuait, et on en faisait de la soupe.
C'est ça, je crois que le village de Tortue Guéraud, d'ailleurs, à la base, c'était un village de
chasseurs de tortues.
Pêcheurs, je ne sais pas trop comment on dit, mais oui, de braconniers de tortues, ou pour choper les œufs, ou pour choper les tortues, tout simplement. Mmh. Et il y a quelques petites dizaines d'années, ils se sont rendus compte que ça allait être plus lucratif s'ils s'en occupaient, et aussi plus respectueux pour l'environnement, pour les espèces et tout ça, parce qu'il y a les espèces de tortues qui viennent pondre à Tortue Guéraud, elles sont quand même en voie d'extinction pour certaines.
Je m'avancerai pas là-dessus.
Si, je crois qu'il le, ouais, y a pas toutes, mais je crois qu'il y a 4 espèces de tortues marines qui viennent pondre à Tortue Guéraud. Et sur les 4, donc nous on en a vu une, c'est la tortue verte.
Oui.
C'est la seule qui vient pondre en octobre. Et il me semble que sur les 4, il y en a au moins une ou deux qui est peut-être pas au moins d'extinction, mais qui sont pas très bien, quoi. Et donc là, tout ce qu'ils mettent en place, alors effectivement, ça fait un petit peu de monde sur la plage. Je m'attendais pas à ce qu'on soit autant, moi, quand on y allait. Il y avait plusieurs groupes, en fait, qui étaient un petit peu...
Ouais, 4 groupes de 8.
On était 4 groupes, c'est ça ?
Ouais, je dirais 4.
Alors, c'est pas énorme non plus, quoi, mais je m'attendais à être moins. Et alors, je pense qu'en pleine saison, ça doit carburer. Mais après, bon, tout ce qu'ils mettent en place, ça participe aussi au financement de tout ça. En plus de ces tours avec les guides, il y a aussi des gardes qui passent la nuit sur la plage pour vérifier que les pontes se passent bien, que les tortues vont bien, qu'il n'y ait personne qui vienne pour choper des œufs ou quoi. Donc, je pense que ça aide énormément les tortues. Et comme tu dis, on a vu une tortue qui s'est rebarrée dans la flotte avant de pondre parce qu'elle avait été dérangée. Mais dans ces cas-là, elle nage quelques centaines de mètres et elle ressort sur la plage plus loin.
Mmh.
Et il y a effectivement de grandes parties de la plage qui sont interdites entre 6h du soir et 6h du matin, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc ça laisse vraiment énormément de place aux tortues pour aller pondre en toute tranquillité. Et là, il n'y a aucun tour, il n'y a personne. Il y a juste des gardes qui font des rondes et tout phare éteint. Et qui les laisse tranquilles.
Pour finir, on va faire un point sur notre itinéraire. Donc après le Costa Rica, là on est à Miami, on fait une petite escale de 4 jours. Et la suite, c'est l'Amérique du Sud pendant 4 mois.
Ouais, avec un petit changement.
Un
léger changement, on reprend l'avion dans 2 jours. Et au lieu d'atterrir à Quito en Équateur, on atterrit à Lima au Pérou. On zappe complètement l'Équateur avec les manifestations qui ont eu lieu jusqu'à il y a quelques jours encore. Là apparemment ça s'est calmé.
Ah bah complètement, c'est fini.
Mais c'est pas c'était hyper chaud, il y a quand même eu quelques morts dans les
émeutes. 4-5, que dalle.
Oui. Mais non, c'est surtout que tous les déplacements dans le pays étaient bloqués, enfin c'était vraiment la grosse merde pendant un moment. Donc on a préféré changer le vol et zapper l'Équateur. Et donc on arrive au Pérou dans 2 jours.
Oui. Et donc on se retrouvera bientôt, je pense, pour un épisode sur... un petit épisode sur Miami. Et ben jusque-là...
Tout va bien.
Jusque-là, c'est toujours loin, mais c'est toujours beau. Et ben Benoît, à la prochaine.
À la prochaine.
Salut.
Je disais, c'est loin, mais c'est beau.